Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bienvenue à ce journal présenté par Belinda Bosuma. Voici tout de suite les titres. La RDC et le Rwanda réaffirment leur engagement à faire avancer le processus visant la neutralisation des FDLR, le désengagement des forces négatives et la levée des mesures défensives du Rwanda. Ceci ressort de la 4e réunion du mécanisme conjoint de coordination en matière de sécurité, réunion tenue cette semaine à Washington. Grogne des enseignants de la province éducationnelle Kasaï 2. Ils réclament leur salaire de septembre, octobre et novembre 2025. La Fédération nationale des enseignants du Congo, Feneco, province du Kasaï, sollicite l'intervention du gouvernement central en faveur de ces enseignants. Et puis, le ACR a fermé 30 de ses bureaux en Afrique centrale et australe dans la RDC. Motif, plusieurs bailleurs de fonds ne respectent plus leur engagement de venir en aide aux réfugiés et déplacés internes. Pour en parler, nous recevons Gnon Kondé, directeur régional du ACR. Madame, Messieurs, bonjour. La RDC et le Rwanda ont tenu les 19 et 20 novembre à Washington la 4e réunion du mécanisme conjoint de coordination en matière de sécurité. Cette rencontre s'est déroulée en présence des représentants des États-Unis d'Amérique, de l'État du Qatar et de la République du Togo en qualité de médiateur de l'Union africaine et de la Commission de l'Union africaine. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de paix signé le 27 juin dernier à Washington. L'objectif principal et d'accélérer l'application de l'accord. Des détails avec Martial Papimukeba.
Selon un communiqué du département d'État américain, la RDC et le Rwanda ont réaffirmé leur engagement à faire avancer l'ordre d'opération pour mettre en œuvre les concepts d'opération CONOPS du plan harmonisé visant la neutralisation des FDLR, le désengagement des forces et la levée des mesures défensives du Rwanda. Les observateurs ont salué les efforts des deux parties pour faciliter la démobilisation, les rapatriements et la réintégration des FDLR. La réunion a fait le point sur la première phase de l'ordre d'opération, notamment les partages des renseignements et les opérations de sensibilisation menées par la RDC pour inciter les FDLR à déposer les armes. La deuxième phase, centrée sur la neutralisation des FDLR et le désengagement des forces et la levée des mesures défensives du Rwanda, a également été abordée. Les participants ont insisté sur la cohérence entre les processus de Doha et de Washington, saluant la récente signature de l'accord cadre de Doha entre les gouvernements et l'AFC M23. En fait, le communiqué précise que le Togo accueillera le 17 janvier 2026 une réunion de haut niveau pour consolider les processus de paix en RDC et dans la région des Grands Lacs, renforcer la confiance et faire progresser les processus. Béni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Par ailleurs, notez que l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad, vient d'arriver ce vendredi à Kinshasa pour une visite officielle. Il a été accueilli à l'aéroport international de Njili par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi que par quelques membres du gouvernement congolais. Le dirigeant qatari, dont le pays joue un rôle de médiation entre la RDC et l'AFC M23 dans le cadre du processus de Doha, va échanger avec le président Tshisekedi sur les questions liées à la paix dans l'est de la RDC. Cette visite marque la première arrivée officielle de Sheikh Tamim en RDC. Il arrive après un séjour de 2 jours au Rwanda où il a rencontré le président Kagame pour un tête-à-tête dans sa ferme de Kibugabuga. Entre-temps, la MONUSCO condamne fermement les attaques meurtrières menées par les rebelles ADF entre le 13 et le 19 novembre 2025 dans plusieurs localités du territoire de Lubero au Nord Kivu. Dans un communiqué ce vendredi, la mission onusienne dit rester pleinement engagée aux côtés des communautés et continuera à soutenir les autorités congolaises dans leurs efforts pour protéger les civils, prévenir les violations des droits de l'homme et lutter contre l'impunité. Elle travaille en étroite collaboration avec les FARDC, les partenaires régionaux engagés dans les opérations conjointes ainsi que les acteurs locaux. Babel Mpongo Massimango a lu pour nous ce communiqué.
Selon les informations recueillies, le bilan des attaques dans les secteurs de Bapéré et la chefferie de Bassouaga est de 89 civils tués, dont au moins 20 femmes et un nombre encore indéterminé d'enfants. Dans la localité de Biamboué, 60 km à l'ouest de Lubero, au moins 17 civils, dont des femmes internées dans la maternité, ont été tués dans un centre de santé de l'église catholique. Au cours de l'attaque, 4 pavillons abritant des malades ont été incendiés. D'autres localités, notamment Mabiango, Tunarudi, Sambalissa, Toucha et Boutsili, ont également ont été la cible d'exactions comprenant des enlèvements, des pillages de médicaments, des incendies de maisons et la destruction des biens appartenant à des populations déjà confrontées à une situation humanitaire extrêmement précaire. La MONUSCO présente ses sincères condoléances aux familles et communautés endeuillées et exprime toute la solidarité des Nations Unies aux populations affectées. Elle rappelle que les violences commises contre les civils, y compris dans des structures médicales, peuvent constituer des crimes de guerre et des violations graves du droit international humanitaire. C'est ce qu'a déclaré Bruno Le Marquis, chef par intérim de la MONUSCO. La mission onusienne justement poursuit ses efforts pour renforcer la protection des civils dans les zones où elle est déployée. La MONUSCO exhorte les autorités congolaises à diligenter sans délai des enquêtes indépendantes et crédibles afin d'identifier les responsables et les complices de ces massacres et de les traduire en justice. Bruno Le Marquis réitère également l'appel du secrétaire général des Nations Unies demandant à tous les groupes armés locaux ou étrangers de déposer les armes sans condition.
Du côté du Sud Kivu, le chef-lieu du territoire de Walungu a été secoué par des tirs nourris dans la nuit de jeudi à ce vendredi. Des témoins sur place rapportent que des obus ont endommagé une partie de l'école primaire Walungu 2, communément appelée école primaire officielle de Walungu et Poa, école construite sur la colline en amont du stade Mafundwe. Une maison en chantier a également été touchée dans le village Kabikwinja. Récit des faits avec Richard Junior Kamunga.
La population a été réveillée vers minuit par des crépitements de balles. En se réveillant ce vendredi, les habitants ont constaté d'importants dégâts sur une bonne partie de l'école primaire Walungu 2.
La nuit d'aujourd'hui donc, à 0h, ici à Walungu Centre, la population a été déstabilisée par les crépitements des balles. C'était des obus qui étaient lancés cette nuit dans différentes directions. Une bombe est tombée sur une maison en construction dans le village Kabikwinja, à moins de 2 km du chef-lieu du territoire de Walungu. Il y a aussi une autre qui est tombée à l'épée de Walungu et qui a endommagé la porte d'une classe cette nuit.
Des jours auparavant, des combats ont opposé les Wazalendo aux rebelles des AFC-M23 dans plusieurs coins du territoire de Walungu, notamment Silax Mugogo, Bideka, Walungu Centre et Kanyola. 3 morts à Mukoko, selon certaines sources, mais d'après la société civile, les bilans demeurent mitigés. Une accalmie apparente s'observe ce vendredi sur les lignes de front précitées. Cependant, les combats continuent autour du site minier de Karembu, à la limite entre Walungu, Mwenga et Chabunda.
Pendant ce temps, en Ituri, la MONUSCO mène depuis hier une campagne de sensibilisation auprès des élèves et des autorités scolaires de plusieurs communautés locales. Objectif, promouvoir la cohésion sociale et le respect de la diversité dans les écoles de Djaïba et Masumbuko dans le territoire de Djougou ainsi qu'à Komanda dans le territoire d'Irumu. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'enfant célébrée le 20 novembre. Près de 1000 élèves ont pris part à ces activités, axées également sur la prévention des violences sexuelles et le risque des recrutements des enfants dans les groupes armés. Reportage de Isaac Remoyope.
À Djaïba, dans les territoires des Djougou, des élèves, des enseignants et des autorités scolaires des communautés Lendu et Hema se sont retrouvés dans une école pour célébrer la Journée internationale des droits de l'enfant. Ils ont été sensibilisés à la protection de leurs droits, notamment à la prévention des violences sexuelles et au risque des recrutements des enfants dans les groupes armés qui sont des violations graves des droits de l'enfant. Les participants ont également été formés aux mécanismes de protection des civils, dont les systèmes d'alerte précoce. Les mêmes notions ont été présentées aux élèves des Masumbuko, toujours dans les territoires de Djougou. Ils ont aussi bénéficié des fournitures scolaires distribuées par les contingents de la MONUSCO. À Komanda, dans les territoires d'Irumu, plus de 830 élèves ont pris part à cette journée de sensibilisation. En plus des messages sur la cohabitation pacifique, ils ont été formés aux pratiques d'hygiène et aux premiers secours en cas d'urgence sanitaire dans une zone où les groupes armés restent actifs. Les élèves ont également participé à des jeux amicaux. Selon la mission onusienne, l'objectif de ces activités est de renforcer la cohabitation pacifique, de promouvoir le respect de la diversité et de garantir la protection des droits de l'enfant. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Je vous l'ai dit dans les titres, les enseignants de la province éducationnelle Kasaï 2 sont en grève depuis 2 jours. Ils réclament le paiement de leur salaire du mois de septembre, octobre et novembre en cours. Du coup, les élèves sont abandonnés et la Fédération nationale des enseignants du Congo Fénéco, province du Kasaï, plaide auprès du gouvernement central pour que les enseignants soient payés et qu'ils reprennent les enseignements. Le point avec André Katené.
Ça fait maintenant 3 jours que les enseignants de la province éducationnelle Kasaï 2, se trouvant dans les territoires de Mweka, Luebo, Ilebo et Dekese, ont décidé de ne pas enseigner les enfants. D'après nos sources, ces enseignants réclament le paiement des arriérés de 2 mois, septembre et octobre, ainsi que la paye du mois de novembre, qui tend vers sa fin. Félicien Lobomwamba, président de la Fédération nationale des enseignants du Congo, Fénéco, Kasaï, invite les gouvernements à payer ses enseignants pour permettre aux élèves de bien poursuivre avec le cours. La nouvelle société civile de Luebo craint que cela puisse avoir de l'impact sur la formation des enfants. Basile Mbanza, son coordonnateur, qui reconnaît aux enseignants le droit de réclamer leur salaire, les invite à occuper les enfants le temps pour le gouvernement de s'acquitter de son devoir.
La nouvelle société civile congolaise encourage les enseignants à rester résilients, à continuer à encadrer nos enfants malgré la souffrance. Nous sommes à vos côtés pour que vos droits soient rétablis.
Kananga, André Katindengala Mouloumé, Radio Kapi.
Créé par l'ordonnance loi du 12 février 2015, l'Ordre national des experts comptables de la RDC ONEC vient de franchir une étape historique. 10 années d'existence célébrées mercredi à Kinshasa lors d'une soirée festive placée sous le thème 10 ans pour rayonner au-delà des frontières. Un anniversaire marqué par une annonce de taille, l'entrée triomphale de l'ONEC RDC dans l'élite mondiale des membres de l'IFAC, la Fédération internationale des experts comptables. Écoutez à ce sujet, Dieu Donné Mampassi, rapporteur du Conseil national de l'ONEC, dans cet extrait choisi par Marcel Ngomombala.
Que nous vous accueillons ce soir pour célébrer ensemble les 10 ans de l'ONEC. Cette décennie marque un parcours de rigueur, de professionnalisme et d'engagement au service de l'intérêt public. Notre adhésion à l'IFAC cette année est une reconnaissance internationale de notre travail collectif. Merci à vous tous, membres, experts comptables, partenaires, qui nous accompagnez tous les jours d'avoir contribué à cette réussite collective.
La paix sociale est revenue à l'entreprise minière chez MAF après quelques jours de tension à Lubumbashi. Les travailleurs de cette société inquiets à l'approche du 30 novembre, date butoir pour la cessation de toutes les opérations, y compris la production des cathodes de cuivre. Ils appellent les autorités à leur trouver une solution idoine au risque d'être envoyés au chômage faute d'investisseurs. Le point de la situation avec Blaise Ndongala Mayanda.
Cette grogne a été maîtrisée à la suite des échanges entre les travailleurs en colère et les membres de la délégation syndicale de l'entreprise chez MAF. Alertés, ces syndicalistes se sont immédiatement rendus sur place pour apaiser cette tension, assurant que tout sera mis en œuvre pour que les droits des travailleurs soient protégés conformément au Code du travail et aux lois de la République. La présidente de cette délégation syndicale a réaffirmé que des investisseurs sérieux sont en lice et n'attendent plus que les autorisations nécessaires pour entamer les négociations avec l'entreprise. Sidonie Taoudjiri.
2 repreneurs sérieux, Jindal et Virtus, sont en lice. Mais ils n'ont toujours pas reçu les autorisations nécessaires pour ouvrir les discussions avec l'entreprise. Ce retard met gravement en danger les finances de chez MAF, déjà au rouge à l'approche de la date butoir annoncée.
Après les échanges avec les permanents syndicaux, les travailleurs de chez MAF se sont calmés et ont repris les activités dans l'espoir d'une réponse rapide des autorités. Même si l'implication du gouvernement congolais a été perceptible, aucune issue concrète n'a encore été enregistrée, laissant ses travailleurs dans l'incertitude. L'entreprise chez MAF est en vente depuis une année et les processus n'évoluent pas au risque de mettre en péril plus de 3 000 emplois.
Direction la province du Maniema, troisième jour ce vendredi de la campagne de réparation des fistules vésico-vaginales à l'hôpital général de référence de Kindu. Sur les 70 femmes attendues, une dizaine sont déjà réparées et les autres sont en file d'attente. Florence Kizalunga a fait un tour sur place à l'hôpital provincial où se déroulent ses interventions. Voici son reportage.
Plusieurs femmes porteuses de fistules accueillent bien cette campagne. Elles viennent de partout. C'est le cas de Madeleine Boissoussa.
Je suis venue de Pangui au village de Kantito. Là, j'étais bien accueillie à l'hôpital général et je suis déjà opérée. Dieu nous a aidés. Je remercie.
Aziza Barouti, ayant réalisé plus de 20 ans avec cette maladie, remercie ses gynécologues qu'elle qualifie de sauveurs.
J'ai tellement souffert. Dieu m'a aidée. On m'a déjà opérée. Je remercie seulement. Dieu, merci beaucoup, je ne pouvais pas, je n'ai ni père ni mère, je suis seule, je remercie beaucoup, je mange et j'ai les médicaments, je demande aux mamans porteuses de fistules de venir à l'hôpital général, on nous soigne gratuitement.
Sur place à l'hôpital, d'autres femmes qui sont en attente croient déjà à leur guérison.
Je suis ici à l'hôpital général, j'attends être opérée, j'ai une fistule. Je suis très très heureuse puisque je serai guérie, car les gynécologues sont arrivés.
Sachez que ces interventions s'effectuent au bloc opératoire moderne, douté par Moïse Katumbi. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Les États-Unis vont-ils participer au sommet du G20 en Afrique du Sud? En tout cas, à deux jours de l'événement, la situation semble confuse. Depuis plusieurs semaines, Washington annonce vouloir boycotter cette rencontre des grandes puissances. Pourtant, c'est hier, en début de journée, le président sud-africain assurait que les États-Unis auraient changé d'avis. S'adressant à la presse, la porte-parole de la Maison-Blanche a tenu à clarifier la situation, déclarant que les États-Unis n'avaient pas changé leur position concernant le boycott du G20 en Afrique du Sud. Si le pays ne prévoit pas de prendre part aux discussions du sommet, un représentant diplomatique sera présent à la cérémonie de passation de pouvoir à la fin de l'événement afin de reconnaître que le G20 de l'année prochaine sera organisé par les États-Unis. Et pour justifier cette décision, le président américain affirme que l'Afrique du Sud persécuterait les agriculteurs blancs africaners minoritaires dans le pays, des déclarations largement réfutées par les autorités sud-africaine.
L'invité.
Le ACR a fermé 30 de ses bureaux dans la région de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, dont la RDC. Motif, plusieurs bailleurs de fonds ne respectent plus leurs engagements de venir en aide aux réfugiés et déplacés internes. Gnon Kondé, directeur régional du ACR, en parle avec Askenzik Biataoro.
Monsieur Gnon Kondé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en visite en RDC, c'est une visite officielle depuis samedi et vous avez entamé une descente dans la province du Kasaï, précisément à Kananga. En quoi a consisté vraiment votre mission en République démocratique du Congo?
Donc, merci de me recevoir, merci de donner l'opportunité au ICR de s'exprimer à travers ma voix. Depuis le 1er octobre, nos opérations au Congo RDC sont gérées à partir du bureau régional de Dakar. Donc il était de bon ton que je vienne apprendre davantage de nos opérations, échanger avec les autorités qui sont les premières concernées, qui gèrent donc les questions de déplacement sur leur territoire, mais aussi aller à la rencontre des populations affectées par les questions de déplacement forcés et bien entendu échanger avec un parterre de partenaires pour comprendre ensemble comment est-ce qu'on peut continuer à travailler pour renforcer la protection des populations déplacées de force et au-delà, comment nous assurer qu'on puisse trouver des solutions.
Vous avez été à Kananga, on aurait appris que vous avez fermé la sous-délégation, comme vous l'appelez dans votre jargon. Pourquoi ?
Qu'on a été présent dans cette province depuis près de 9 ans, okay, à la suite des événements tragiques. Je ne me rappelle pas si je peux
prononcer.
Kamuina Sapu, voilà, qui a vu donc le déplacement de près de 1 300 000 populations, y compris à peu près 35 000 parmi eux qui ont traversé les frontières pour se retrouver du côté de l'Angola. Donc 9 ans après, aujourd'hui, en 2025, il y a énormément de travail qu'on a pu faire aux côtés de ces communautés, mais aussi des autorités. Donc pour nous, on pense et on estime que le travail a été fait, mais mieux, on a réussi aussi à capaciter des acteurs locaux. Donc on quitte, on ferme au mois de décembre, mais en fait, en réalité, on garde un œil, on est présent, Donc, on ferme le bureau, mais on reste présent autrement pour continuer d'agir au bénéfice des populations.
Alors, le nœud du problème, c'est quoi? C'est que vous n'avez plus d'argent?
Il y a cette réalité, on ne peut pas la nier, parce que tout le monde sait à travers l'actualité que les acteurs humanitaires ont été énormément impactés depuis le début d'année à cause de la décision prise par certains bailleurs. Le premier bailleur pour nos opérations, ce sont les Américains.
Tout à fait.
Donc, les Américains pesaient à hauteur de 60%. 60% dans nos budgets pour nos opérations en Afrique de l'Ouest et centrale. Des bureaux ont été fermés dans la région, pas seulement ici au Congo. C'est près de 30 bureaux. Et pour le HCR, c'est énorme.
Là, c'est l'administration Trump.
Non, je dirais pas que c'est l'administration Trump. Je dirais que c'est la plupart des bailleurs. C'est la réalité aujourd'hui de ce que l'on voit un peu comme aide, que ce soit l'aide humanitaire. On le ressent rapidement parce que c'est là où il y a un besoin d'apporter une réponse urgente. Et mais aussi tout ce qui participe à l'aide publique au développement. Donc il n'y a pas que l'administration Trump, on le voit un peu partout. Et pour moi, c'est le lieu de lancer un appel aux bailleurs de rester engagés parce que les besoins sont énormes. Les populations dans ma région, dans la région Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, on parle de 4 millions de réfugiés et de 14 millions de déplacés internes qui sont en attente de solutions. Ce sont des populations dont les vies sont suspendues. Et on a besoin de soutien pour pouvoir travailler à reconstruire ces vies, à les ramener dans une forme de dignité.
Est-ce que le HCR sera en mesure de continuer son travail ou alors il va encore continuer à fermer d'autres sous-délégations?
Non, on espère que non. Ce que je peux dire, c'est que nous allons rester au Congo RDC. Le HCR ne quittera pas le Congo RDC. D'ailleurs, vous avez vu, à la lumière des négociations et des mécanismes de paix, le HCR a été nommément cité à côté d'autres acteurs. Cela exprime l'attente des autorités de nous voir rester engagés et jouer pleinement un rôle d'appui-conseil. Donc je peux vous garantir que le HCR restera. Mais là, on restera et peut-être qu'on va travailler différemment avec de nouvelles approches.
Alors, vous avez fermé la sous-délégation des Kananga. Qu'en est-il vraiment des infrastructures?
On est en train, en ce moment, on en a discuté avec monsieur le gouverneur sur place, pour voir un peu ces infrastructures, qu'elles soient mobiles ou immobiles, qu'est-ce qu'on va en faire? Ce que nous faisons, c'est de renforcer les acteurs locaux pour que ces acteurs restent en capacité de pouvoir faire le travail.
Monsieur Nyong Kondé, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Le directeur régional du HCR répondait aux questions de Asken Zigbiatayoro. Par ici prend fin à ce journal coordonné par Richard Junior Kamunga, à la mise en onde Dieudonné Nyangasa. Merci d'avoir été des nôtres.